Maître William Bourdon, bonjour.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur les mesures d'exception décidées par le président tunisien Kais Saied ?
D'abord, je voulais dire que moi, j'ai arpenté sous Ben Ali la Tunisie une quinzaine de fois, mandaté par différentes organisations de défense des droits de l'homme pour assister à des procès, porter secours à des avocats, des juristes qui étaient persécutés, et retrouver tous mes amis ou certains de mes amis aujourd'hui persécutés, comme il était sous Ben Ali, il y a quelque chose qui est évidemment totalement insupportable. Aujourd'hui, les grands médias internationaux commencent à dessiller les yeux sur quelque chose qui n'est bien au-delà du coup de force qui a été fait, même de coup d'État. J'ai été qualifié comme tel par des professeurs de droit constitutionnel tunisiens et étrangers du 25 juillet 2021, progressivement avec le dernier décret du 22 septembre, la suspension des pouvoirs du Parlement et les mesures de persécution à l'encontre des avocats, même de certains juges, les pressions sur la justice. On n'est plus dans une dérive autoritaire, on est dans un régime qui commence à avoir toute la figure de ce qui s'appelle un régime despotique.
Quels sont à vos yeux les cas emblématiques ?
Il y a évidemment quelqu'un qui m'est très cher qui s'appelle Chaouki Tabib. Chaouki Tabib était l'ancien bâtonnier de Tunis. C'est quelqu'un d'infiniment respecté, courageux, intègre, et que cet homme qui a bravé la dictature de Ben Ali puisse être assigné à résidence sans l'ombre d'une formalité ou d'un papier. Il le sait, c'est tout, on lui a dit. Bref, c'est une forme de lettre de cachet. Que cet homme qui a animé l'autorité indépendante de la lutte contre la corruption pendant des années, en ferraillant avec tous les pouvoirs, pour révéler ce qui est un mal endémique en Tunisie, et qu'il est malheureusement resté depuis 2011, subisse le sort qu'il subisse aujourd'hui, est insupportable. D'autres aussi, d'ailleurs, des anciens ministres, et puis souvenez-vous, un haut magistrat de juridiction administrative a dénoncé les pressions faites à son encontre, on comprend pourquoi les recours qu'il a fait pour l'instant n'aboutissent pas. Et le paradoxe absolu, mais qui est très classique dans le cynisme des populistes, c'est qu'on essaye de séduire une opinion publique un peu désenchantée, désemparée, et elle l'était, elle l'est toujours, par une espèce de propagande sur le thème « on va lutter contre la corruption » et on démantèle cette autorité indépendante de la lutte contre la corruption qui a été placée sous séquestre le 20 août 2021, tutelle policière, tous les documents couverts par le secret, 40 000 dossiers, plus de 200 000 déclarations de biens et de patrimoine ont été appréhendés par les agents dans des circonstances totalement illégales. Une procédure dite S-17 permet, sans l'ombre d'une décision administrative, d'interdire à des magistrats, des avocats, des hommes d'affaires de voyager sans un minimum de contrôle policier, d'interrogatoire. On est là dans quelque chose de tragique. La Tunisie était la petite lumière qui avait fait scintiller avec bien des obstacles et des atermoiements et des reculades. Enfin, le printemps arabe, un oasis de démocratie, et la voilà qui rebascule à nouveau dans une logique tyrannique. C'est évidemment la responsabilité de nous, collectivement, les militants droits de l'homme, les grandes institutions internationales, la communauté internationale, de faire en sorte que cet homme qui semble avoir une conception strictement solitaire et despotique du pouvoir rétablisse le pouvoir du Parlement, rétablisse et reconsolide les libertés publiques et engage un dialogue avec la société civile, ce qu'il semble pour l'instant obstinément vouloir s'en abstenir.
Alors votre confrère Chaouki Tabib, qui présidait l'instance nationale de lutte contre la corruption, est aujourd'hui suspecté de fraude et usage de faux, sous-entendu l'ancien chef de la lutte anti corruption est soupçonné d'être lui-même corrompu. Est-ce qu'il n'est pas normal que la justice enquête sur son cas ?
Mais écoutez, c'est pas moi qu'il faut convaincre de la nécessité de corréler la consolidation de la démocratie avec la lutte contre la corruption, qui est évidemment un cancer. Mais cette procédure ne tient absolument pas debout, tout le monde le sait à Tunis, ceux qui l'ont redit le savent mieux que quiconque. C'est un grand classique, vous savez, qui consiste à habiller en procédure de droit commun des persécutions politiques. D'autres d'ailleurs en font les frais, ils ne peuvent plus rentrer en Tunisie. C'est une modalité qui témoigne aussi du mépris absolu que semble avoir le nouveau pouvoir pour des règles élémentaires de la procédure équitable. Des dossiers concernant les avocats ont été transférés à la justice militaire. Sans doute espérait-il que tout ça se fasse à bas bruit. Donc il y a de quoi être aujourd'hui extrêmement alarmé et préoccupé.
Et que faites-vous aujourd'hui pour votre confrère Chaouki Tabib, qui est en résidence surveillée ?
Écoutez, nous avons saisi le 15 septembre 2021, et en même temps, au bénéfice de M. Anouar Mohamed Maarouf, ancien ministre d'État, ministre des Transports, le groupe de travail sur la détention arbitraire qui siège auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies à Genève. C'est un des instruments les plus rigoureux et les plus craints. Ils ne sont pas tous parmi le bouquet d'outils qui existent à Genève. Ces avis, parfois, font bouger un certain nombre d'États, et nous espérons de ce groupe de travail qu'il rend un avis aussi dur que mérite la situation que subissent mes clients et amis, et invite, avec la rigueur qui lui est coutumière, le gouvernement tunisien à y mettre un terme sans délai.
Alors, vous dénoncez une dérive despotique de la part du régime, mais le président tunisien Kais Saied, il s'appuie tout à fait légalement sur l'article 80 de la Constitution de 2014, qui l'autorise à prendre des mesures d'exception en cas de péril imminent pour le pays.
Non, pas du tout. Slim Ben Achour, très grand constitutionnaliste tunisien, extrêmement extrêmement respecté, a rendu un avis stigmatisant très clairement le fait que c'était un détournement de procédure, que l'article 80 supposait de respecter toute une série de conditions qui n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, c'est prorogé avec le même mépris des droits du Parlement et de l'ensemble des contre-pouvoirs. Tous les grands constitutionnalistes et juristes ont dénoncé ce qui s'apparente à une forme de coup d'État. Et puis dire quand même que l'histoire du XXe siècle est remplie de dictateurs qui se sont présentés comme les sauveurs, voulant parler au nom du peuple, court-circuitant tous les contre-pouvoirs, quels qu'ils soient. Sans doute, la Constitution mérite d'être revue, mais pas dans une logique autoritaire, pas au mépris des libertés publiques et pas sans dialogue avec les acteurs politiques et la société civile.
Le décret présidentiel de la semaine dernière indique que les réformes à venir consacreront la séparation des pouvoirs et l'équilibre réel entre eux. Est-ce que ce n'est pas rassurant tout de même ?
Écoutez, pour quelqu'un qui est maintenant à son passif, si je puis dire, autant de coups de canif si graves à la Constitution, à l'état de droit, aux libertés publiques, qui a à minima le devoir absolu d'être particulièrement sceptique. Donc ces effets d'annonce, aujourd'hui, ne peuvent que inquiéter sur l'habillage avec lequel le président Raïs Saïed essaye de légitimer ce qui est, je le répète, une très grave dérive autoritaire et despotique.
Mais franchement, Maître Bourdon, avec la Constitution et la loi électorale actuelle, il y a une guerre de tranchées entre la présidence et l'Assemblée, il y a un Parlement fragmenté, il y a un pays ingouvernable. Est-ce qu'il n'est pas temps d'amender les institutions
L'histoire est pleine des despotes qui ont dit « on va sauver le peuple, c'est la gabegie, c'est le chaos, je vais être le sauveur » et qui ont installé un régime despotique où, en général, de façon tout à fait exceptionnelle, ils ont fait marche arrière. Mais sur le fond, vous avez raison, bien sûr qu'il y a un chantier. Tous les acteurs que je connais en Tunisie savaient très bien qu'il fallait se remettre à l'ouvrage pour reprendre cette constitution et qu'ils le fassent, mais qu'ils le fassent dans le respect de la démocratie et qu'ils le fassent en renonçant à cette dérive autoritaire qui va à l'envers de ce qu'ils promettent.
Dans votre dénonciation de cette dérive autoritaire, vous partagez l'opinion du président du Parlement suspendu, Rached Ghannouchi, qui dénonce, je cite, un retour en arrière vers le pouvoir absolu d'un seul homme. Maître Bourdon, ça ne vous gêne pas de mêler votre voix à celle du chef des islamistes tunisiens ?
Mais c'est pas parce qu'il y a tel ou tel acteur politique, en l'occurrence un chef islamiste qui fait de l'instrumentalisation électoraliste pour essayer d'asseoir sa légitimité, que ça fait disparaître la légitimité de la dénonciation. Il y a toujours eu des récupérateurs, des magogues, dans des camps parfois que nous répondons, vous et moi et bien d'autres. Je ne mène pas ma voix, moi, à ceux qui braillent pour les besoins de leur survie politique et qui sont largement disqualifiés par la façon dont ils semblent avoir traité un certain nombre de libertés publiques ou le peu de respect qu'ils ont eu, notamment pour le statut des femmes en Tunisie. Donc moi, l'instrumentalisation, c'est une chose, et la légitimité d'une résistance citoyenne et d'une dénonciation publique et politique d'une dérive despotique, c'est autre chose.
Vous dénoncez ce que vous appelez un coup d'État, mais le 25 juillet, lorsque ces mesures d'exception ont été prises, il y a eu des scènes de liesse populaire dans les rues de Tunis.
Écoutez, des foules dans la rue, il y en a toujours eu quand des populistes ont pris le pouvoir pour le bien du peuple et ensuite se sont transformés en tyrans.
Dans 2 mois, la Tunisie doit accueillir le sommet de la francophonie. Est-ce que vous espérez une détente politique d'ici là ?
Moi, je pense que la Tunisie occupe une place de premier plan dans notre histoire commune, dans les relations franco-tunisiennes. Il y a une responsabilité de porter secours à ce pays pour que ne se trahissent pas les idéaux du printemps arabe dont les Tunisiens ont été courageusement les premiers porteurs d'un drapeau et parfois au risque de leur vie, à leur risque et péril. Donc je pense, j'imagine, que les grands dirigeants, les grands bailleurs de fonds vont faire passer, ils le font déjà, des messages pour dire leurs préoccupations, leurs inquiétudes et essayer de ramener un homme qui semble extrêmement rigide à la raison, puisque aujourd'hui, manifestement, ce qui semble prévaloir, c'est la déraison.
Maître William Bourdon, merci.